Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 251. Alors aujourd'hui, on va discuter des Stradivarius, donc des violons, et je suis avec Thomas Guillot. Bonjour.
Bonjour.
Donc comme on l'a déjà fait une première fois il y a quelques semaines de cela, donc Thomas a donc le fameux site web qui s'appelle Septum, je vais arriver à le prononcer un jour.
Tu peux dire Skeptom, ça marche aussi.
Skeptom, oui. Et voilà, donc il est venu chez moi aujourd'hui, donc on aura une meilleure qualité sonore que la dernière fois. Et sauf que vous entendez un hélicoptère qui passe peut-être, mais c'est pas grave. Non, mais voilà, on est en face à face, ce qui est toujours plus agréable. Et donc il a sélectionné un article dont on va parler aujourd'hui, qui est... Le titre est « Stradivarius surprise, des solistes rejettent ». Les célèbres violons en test à l'aveugle. C'est un article qui a été publié dans le Los Angeles Times. Tu peux un peu nous dire pourquoi tu as choisi, quel est ton intérêt dans cet article? Pourquoi tu as choisi de traduire cet article-là?
Alors l'intérêt, il est très évident, c'est que je suis un grand passionné de musique classique. Et comme je suis en plus dans le scepticisme et tout ce qui peut joindre un peu les deux côtés, c'est toujours intéressant. C'est pas la première fois que je lis un article sur le sujet. J'en avais lu un autre sur le site charlatan.org où ils parlaient d'une série d'articles comme ça où ils essaient de démonter un peu quelques mythes sur des sujets un peu voilà, des choses qu'on considère comme acquis. Ici, c'est le cas des violons Stradivarius qui seraient d'office supérieur à n'importe quel autre type de violon, ancien ou moderne. Et voilà, l'article essaie un peu de remettre ça en question. Et donc, il y a une étude qui a été faite. Il y a en fait une première étude qui avait été faite il y a quelques années et qui avait testé donc l'affirmation que les violons Stradivarius étaient supérieurs aux autres en prenant une série de violons, une série de musiciens. En les faisant jouer à l'aveugle sur les violons et puis en essayant de récolter leur avis. Bon, le protocole était un peu plus détaillé que ça, mais l'étude avait reçu pas mal de critiques. Il faut croire que les musiciens n'aiment pas trop qu'on critique les Stradivarius, donc ça n'avait pas été très bien accueilli. Et donc il y a deux autres chercheurs qui ont refait cette étude. Donc c'est une sorte de réplication, mais avec un protocole un peu plus poussé qui permet en fait de répondre aux précédentes critiques. Notamment, il faut que je reparcours un peu l'article pour ne pas dire des bêtises, il y avait une des critiques de la première étude, c'était que le temps de jeu était seulement de 30 minutes pour l'ancienne étude, et là, ils ont notamment fait jouer les musiciens pendant 2h30, 5 fois plus donc, ce qui n'est pas négligeable. Il y a aussi plus d'instruments qui ont été testés. Je ne sais plus combien il y en avait dans l'ancienne étude, mais ici il y en avait 12 en tout, 6 anciens et 6 nouveaux. Et parmi les 6 anciens, il y en avait 5 qui étaient des Stradivarius. Et aussi, ils ont fait tester les musiciens dans deux salles différentes, une salle de répétition et une salle de concert. Donc avec ces trois modifications du protocole de base, ben ils ont répondu aux critiques de la première étude.
Ou juste pour revenir peut-être en arrière, donc bon, je suppose que la grande majorité des gens savent ce que c'est un Stradivarius, mais donc c'est des violons qui ont été créés par Stradivari, c'est comme ça qu'il s'appelle.
Stradivari, oui, Antonio Stradivari. Dit Stradivarius. Bon, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant d'écrire l'article, de le traduire plutôt. Mais donc le nom du gars, luthier, c'est Stradivari. Et Stradivarius, ce serait plutôt son surnom, c'est pas un surnom très original du coup, mais. Et c'est comme ça que les violons s'appellent du coup.
Ils sont quand même assez vieux, ça date d'une. Les Stradivarius datent d'une certaine époque, non? Parce que dans l'expérience, ils ont dû. S'arranger pour que les musiciens puissent pas avoir d'indices sur lesquels étaient des Stradivarius en fonction de l'âge.
Oui, tout à fait. Stradivari, de quand il date? Alors là, je suis sur Wikipédia, je vous le cache pas. Il est né en 1644, donc ça date un peu effectivement. Et effectivement, donc dans l'étude, bon, ça a été fait. Le but, c'est d'avoir une étude en aveugle. Et donc les musiciens ne peuvent pas savoir si l'instrument qu'ils ont est vieux ou nouveau. Et donc, ils ont vieilli artificiellement les violons nouveaux pour changer un peu leur texture, pour qu'au toucher, ça ait l'air ancien. Ils ont, et pour, aussi pour, le, pour, ne pas, pour que le visuel ne trompe pas non plus, ils ont joué dans des salles un peu sombres et ils ont porté, je crois qu'ils portaient des lunettes un peu.
Oui, ils disent qu'ils portaient des lunettes teintées.
Lunettes teintées, voilà. Ouais. Donc ils sont allés assez loin pour éviter de reconnaître, en tout cas au, à la vue ou au toucher, le type de violon qu'ils avaient.
Et donc les résultats, c'est que...
Ah, les résultats, ben voilà, ça c'est la partie intéressante. Ben, ça, ça corrobore en fait l'étude précédente, c'est que les Stradivarius ne sont pas nécessairement supérieurs, tout simplement. Donc il y avait un système de cotation en fait, pour coter les violons. Donc il y avait une série de points qui étaient attribués par les violonistes, il y en avait 10 en tout, des musiciens. Il y avait... Donc les musiciens devaient donc tester les instruments. La consigne c'était comme s'ils devaient partir en tournée et qu'ils devaient choisir un instrument pour partir en tournée. Et donc ils devaient coter les violons, en fait les ranger par ordre de préférence. Et donc sur leur liste, il y avait le premier violon qui recevait 4 points, le deuxième 3 points, le 2 points pour le troisième, 1 pour le quatrième. Et il y avait aussi, ils pouvaient rejeter des violons, donc s'il y avait d'office des violons qui refusaient, qui refuseraient d'emblée pour les prendre avec eux, alors là il y avait une, un point en moins. Et donc ils ont compilé les scores des 10 solistes. Et on trouve en tête de liste, une fois que tous les points sont rassemblés, en fait on trouve les majoritairement les violons modernes. C'était, d'ailleurs, il y avait un qui sortait clairement du lot, c'était un des violons modernes. Il y avait 4 des 10 solistes qui l'ont choisi comme favori, 4 autres comme second choix, et il a été rejeté aussi 2 fois. Ce qui faisait un total de 26 points, tout compris. Le deuxième violon était un 9 aussi, le troisième par contre était un Stradivarius. Donc voilà, enfin toujours est-il que même si les résultats sont, ne montrent pas que non plus que les modernes sont supérieurs, ça montre par contre clairement que les Stradivarius ne le sont pas nécessairement.
Alors qu'ils se vendent à des sommes folles.
Ah oui, oui, oui. Oh, je serais incapable de donner un prix, mais non, c'est clair. Effectivement ça se vend très très cher.
Ouais, donc finalement ça serait encore un bel exemple de comment de je sais pas si on peut dire c'est un biais cognitif, mais enfin que quand les gens savent qu'ils jouent sur un Stradivarius, ça biaise leur perception de l'instrument, ils ont l'impression que l'instrument est bien meilleur qu'il n'est réellement.
Oui, sans doute. Bah oui, c'est ce genre d'a priori qui change la façon dont on pense les choses. Maintenant, il peut y avoir aussi un effet où quand on sait qu'on joue sur un Stradivarius, on a peut-être tendance à mieux jouer que d'habitude. Peut-être ça pourrait expliquer dans la vie réelle et pas dans un protocole contrôlé qu'il y ait un petit effet supplémentaire du Stradivarius, mais bon, je suis pas sûr que ça puisse vraiment expliquer la différence. Je pense que vraiment il y a effectivement une question de perception modifiée par les attentes sur les violons.
Ouais, moi c'est en lisant ton article, enfin donc qui est la traduction d'un article, où on va citer son nom, peut-être ce serait pas mal. Donc c'était dans le LA Times et c'est un article de Karen Kaplan du 7 avril 2014. Hein, donc les gens qui veulent lire la traduction peuvent aller sur ton site, hein, c'est Skeptom. Ouais. Oui, en fait, ça m'a... moi je suis pas musicien, donc j'ai pas vraiment vu passer cet article. Mais il y a eu pas mal de discussions dans les milieux sceptiques sur les tests au niveau du vin, ouais. Avec les experts œnologues. Voilà, hein, si on les fait goûter en aveugle, etc., la perception à... Est-ce que le vin est meilleur, etc. Puisqu'on nous vend du vin comme étant du mauvais vin, pas cher, du vin de très bonne qualité qui coûte extrêmement cher. Donc il y avait pas mal de discussions assez similaires. Bon, évidemment, il y a des vins qui sont quand même objectivement meilleurs que d'autres, mais il y a quand même beaucoup dans la perception qui est influencée. Si on achète un vin très cher, on aura tendance à le goûter comme étant meilleur qu'il n'est réellement, etc. Donc il y a ce genre d'effet qui joue aussi. Ça m'a vraiment fait penser à ce genre de test là.
Oui, tout à fait, ça m'a fait penser exactement à ça aussi. Et d'ailleurs, dans l'intro de quand je traduis un article, je mets toujours une petite introduction personnelle, et comme je trouvais qu'il y avait un lien assez fort avec le donc tous ces tests sur les vins, j'ai mis une série de liens sur effectivement la façon dont les les attentes sur le vin modifient les perceptions ou le modifient la façon dont on évalue le vin ou son prix, etc. Donc si les auditeurs veulent aller lire quelques trucs là-dessus, ils peuvent aller aussi sur la page de l'article. Dans l'intro, il y a 4 ou 5 liens sur les vins.
Oui, il y en avait une des recherches sur les vins qui était très sympa. Sur, ils avaient coloré le vin en rouge, du vin blanc en rouge, pour voir si les gens allaient arriver à reconnaître du vin rouge.
Ouais,
ouais. Même avec coloration, ils avaient fait ça dans une école d'œnologie en plus, et je crois qu'ils avaient raté. Hein, la perception, en fait, le fait de voir le vin rouge altère ta sensation au niveau, et t'as l'impression qu'il est rouge, en fait. Hein. C'est fabuleux. Le cerveau est fabuleux.
C'est assez dingue. J'imagine que ça peut faire un très bon examen final, finalement, pour si tu veux devenir œnologue professionnel.
Ouais.
Enfin, j'imagine que certains ont quand même deviné la supercherie.
Oui, mais pas autant qu'on pourrait s'y attendre, ouais, justement. C'est ça qui était surprenant. C'est que finalement, c'est plus dur que... Et comme ça, quand... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ton cerveau te manipule, quoi. Comme ta perception te trompe. Hein. C'est ça qui est fou. Mais pour les goûteurs experts, là, c'est vrai qu'il y avait eu des recherches sur les vins avec des vins de bonne qualité. Ils étaient tous de bonne qualité, mais quand on demandait à l'expert d'évaluer les vins, il y avait quand même une grande marge d'erreur, de variabilité. Oui. Ils savaient tous que c'était des bons vins, mais les estimations qu'ils donnaient, alors que c'est supposé être des gars qui doivent pouvoir dire le prix schlack.
Ouais, ouais.
Donc c'est comme toujours, hein, c'est pas... dès qu'on rentre en double aveugle, les choses deviennent beaucoup plus compliquées.
Hein. Oui, c'est vrai. Que...
Très bien, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais dire sur cet article.
Il y avait un petit point intéressant, un petit truc marrant, il y a un moment donné, les chercheurs ont essayé, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient tellement confiance en l'idée que les Stradivarius devaient être supérieurs, mais ils ont même essayé du coup de trouver des systèmes de cotation alternatifs pour voir si quelque part les Stradivarius pourraient sortir du lot avec d'autres systèmes de cotation, ce qui n'est pas normalement une très bonne chose à faire au niveau méthodologie, parce que ça veut dire que tu essayes de produire les résultats que tu veux, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que même en essayant, ils n'ont pas réussi. Voilà, il conclut quand même l'article en disant que, bon, même si on peut encore critiquer des choses dans leur protocole, il va falloir amener des très très bons arguments pour continuer à soutenir que les Stradivarius sont vraiment supérieurs.
Ouais, et ça me ramène... oui, c'est vrai qu'il y a un point que je voulais évoquer sur ce sujet-là, parce que souvent on discute c'est quoi le scepticisme, c'est quoi la zététique. Parce qu'évidemment, c'est des protocoles qui évoquent un peu les protocoles de tests de voyants, des choses comme ça sur le paranormal. Mais c'est vrai qu'une dans les définitions généralement que j'aime bien du scepticisme ou de la zététique, c'est que le scepticisme ou la zététique, un des aspects, c'est la protection du consommateur finalement. On peut. C'est assez proche de l'organisation qui évalue si ce qu'on nous vend, les produits font réellement ce qu'on nous affirme dans les publicités, quoi. Et là, finalement, c'est très, tout à fait ce rayon-là, c'est de la protection du consommateur. On teste si les Stradivarius.
Bon, c'est des consommateurs un peu particuliers, sur des produits de luxe, mais c'est vrai que le concept est assez similaire.
Parce que parfois, on peut s'étonner, par exemple... Ouais, James Randi avait proposé un protocole pour tester des câbles pour la qualité sonore, des câbles qui prétendaient que leur qualité pour des baffes, je pense, un truc comme ça. Enfin, c'est très loin dans ma mémoire. Pour évaluer, enfin, la compagnie qui les vend disait qu'ils étaient largement supérieurs aux autres compagnies et ils les vendaient beaucoup plus cher. Et James Randi leur a proposé un test dans le cadre du son Million Dollar Challenge. Et on se dit, ouais, mais attends, c'est pas du paranormal. Mais ça rentre vraiment là-dedans, quoi. C'est de la protection.
Mais ça rentre tout à fait là-dedans. Surtout que finalement, les méthodes sont similaires. Hein. Les méthodes qu'on applique dans la science ou dans la démarche sceptique en général, c'est le même concept. C'est le fait d'essayer d'éliminer un maximum les biais, donc les possibilités de se tromper en fait dans la conclusion qu'on atteint. Mais sur l'histoire des câbles, là, c'est intéressant parce que bon, comme je suis passionné de musique classique, je commence à m'intéresser un petit peu à l'audiophilie et donc tous les systèmes un petit peu de pointe pour écouter. Je m'y connais pas du tout et j'entre seulement un petit peu dans le milieu pour essayer d'apprendre, hein, ne fût-ce que pour m'acheter du bon matériel. Mm-hmm. Et effectivement, je me pose toujours cette question, est-ce que je dois acheter par exemple des câbles en or ou tel type de baffle ou tel type d'ampli, sachant que peut-être finalement l'oreille sera pas capable d'entendre la différence de toute façon. Je ne sais pas s'il y a des tests qui ont été faits là-dessus, à part celui de James Randi, mais clairement ce serait intéressant parce que c'est aussi du matos qui coûte assez cher en plus.
Et voilà, donc enfin, je sais pas, souvent les parapsychologues reprochent aux sceptiques de faire des tests de voyants, comme on fait à l'observatoire zététique, etc. Mais finalement, c'est vraiment ces tests-là sont vraiment dans une optique de protection du consommateur. Le voyant propose un service payant et on dit, bon, ben, on va voir si ce qu'il fait payer à ses clients vaut la peine d'être acheté à ce prix-là.
C'est sûr, hein. Et pareil pour le vin, hein. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser 60 € dans une grande bouteille si personne va vraiment voir la différence? Finalement, tu prends une bouteille à 5 €, tu montes pas l'étiquette, tu la mets dans un pichet, tu dis que c'est un super grand vin qui t'a coûté bonbon. Peut-être les gens vont l'apprécier, hein.
Ah, c'est clair. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on va en rester là pour cet épisode.
Ok, bah oui, hein, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mais c'est intéressant.
À une prochaine alors.
À la prochaine.